Les causeries de Charlie.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ces causeries de Charlie. Alors cette semaine, notre ami Fools est absent parce qu'il est en reportage, donc il n'a pas pu animer cette session.
Et donc aujourd'hui, c'est notre guide suprême
Et donc aujourd'hui, nous avons invité autour de notre table Gilles Raveau, notre économiste en chef, pour l'interroger sur une question qui préoccupe pas mal des Français. D'une part, il y a la question de la dette, parce qu'il paraît que la France atteint des niveaux d'endettement absolument invraisemblables. Et puis aussi, il y a les fameux accords
CETA.
CETA, voilà, que Gilles va nous expliquer. Que faut-il en penser? Alors, on commence par quoi?
Gilles, à toi.
Bah, on peut commencer par la dette, c'est ce qu'on avait dit.
Ah oui, la dette.
Voilà, donc est-ce qu'il faut faire des économies?
Comment
Bruno
on fait des...
Bruno Le Maire...
Il y a 10 milliards à trouver.
Voilà.
Donc on se dit que... On se dit que quelque part, les services
publics...
Dans ton
salaire d'abord, d'accord, mais ensuite...
Oui, en fait, c'est ça, je voulais faire une annonce aux Français. Écoutez, détendez-vous, j'ai regardé mon PEL, et je vais les filer les 10 milliards. Ouais, il me reste. Parce que, bon, je vois que Bruno, il est tout stressé. J'ai lu son livre hier.
Ah oui?
Il va pas bien.
Il va pas bien. T'as pas été convaincu?
Non, alors ne l'achetez surtout pas, volez-le peut-être plutôt.
Ça vous fera faire des économies.
Ouais, c'est ça, je pense que ça peut être. Puis de toute façon, il faut préparer les JO, donc qui dit vol dit course pour échapper au,
à la police.
C'est bien. C'est,
donc t'as rien appris ?
C'est bon pour le cardio. Bah si, j'ai appris, j'ai même fait un article pour le site de Charlie Hebdo que tu as lu hier, il se sait. Et, non, mais il y va fort quand même, le Bruno, parce qu'il nous dit hausse de la TVA, donc l'impôt quand même le moins redistributif, baisse du SMIC. Baisse des allocations chômage. Et là, je me dis, c'est vrai qu'on voit quand même sa pensée comme hyper originale. Quoi. Enfin, tu vois, c'est des trucs qu'on n'a jamais entendus depuis 40 ans. Quoi.
Tu veux dire que Bruno Le Maire est de droite.
Et alors, quoi, qu'est-ce qu'il dit?
Bah non, mais son bouquin est vraiment affligeant.
Il n'y a pas de cul dans son bouquin, alors. Même pas une demi-molle. Quoi.
Non, mais il a dit un truc aussi comme
voilà,
ça.
Moi, tu sais, moi, tu me dis taux de chômage, je commence déjà à être un peu, un peu excité.
Il a dit un truc, il a dit comme ça qu'il fallait repenser la gratuité. Alors moi je pensais que c'était la gratuité des médias, des journaux, etc. En fait non, c'est la gratuité des services publics. Mais on a envie de lui dire, mais les services publics, ils n'ont jamais été gratuits. On paye déjà des impôts. Donc c'est quoi ce nouveau concept de revenir sur la gratuité de ce qui lui considère comme étant trop gratuit?
Bah, je pense que malheureusement, mais ce que je vais dire est d'une affreuse banalité, donc je présente mes excuses aux éventuelles auditrices et auditeurs, c'est que on voit bien qu'ils sont en panique totale depuis le début de ce quinquennat, contrairement au précédent. Quand Macron arrive en 2017, il a un projet pour la France, qui pour le coup qui est avant tout un projet économique. On s'en rappelle, on l'a tous oublié, mais la Startup Nation, c'était pas n'importe quoi, je veux dire. Évidemment, nous.
Toi, t'y as cru, toi?
Non, j'ai pas cru, c'est pas notre tasse de thé, mais je veux dire. Sur, au moins en théorie, ça tenait la route. L'idée, c'était de dire, je vais fortement baisser la fiscalité, je vais fortement faciliter les licenciements, je vais supprimer donc l'impôt sur la fortune, je vais faire en sorte que l'investisseur chinois, quand il regarde sur son bureau la planète, il dise, ben, je vais investir en France plutôt qu'en Suisse ou aux Pays-Bas ou en Allemagne. Mmh. Voilà. Et par ailleurs, on va tout miser sur les nouvelles technologies, les start-up. Bon, c'était pas débile.
Alors, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis?
Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas du tout mis en œuvre son programme, et je le vis comme universitaire, c'est qu'on sait qu'un des points noirs de la société française depuis très longtemps dans le domaine économique, c'est l'absence totale de lien entre les universités et la recherche, qui est au fondement, par exemple, de la réussite des universités américaines, et il n'a strictement rien fait dans ce domaine-là. C'est-à-dire que nous, à la fac, on était habitués à ce que les étudiants soient pauvres, maintenant c'est les enseignants aussi qui sont pauvres. Bon, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de table, on n'a pas d'ordinateur. Donc, pour innover et trouver les... On se rappelle des vaccins. On se rappelle des vaccins qui ont tous été trouvés par des Français, travaillant tous à l'étranger, parce qu'il n'y a que là qu'ils ont des moyens pour travailler, sans parler du salaire. Donc, en 2017, il y avait un projet, il ne l'a pas mis en œuvre. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne l'a pas mis en œuvre. Là, en 2022, quand il est réélu, on sait qu'il n'a aucun projet. On voit qu'il est complètement perdu. Alors, et donc là, juste pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent après la droite et l'extrême droite de façon purement électorale en disant, rassurez-vous, on va taper sur les pauvres, les immigrés et les chômeurs, c'est tout.
Mais est-ce que c'est pas, alors je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est pas aussi la crise du Covid qui a foutu en l'air tous les projets budgétaires imaginés avant? Non. parce alors, que c'est le fameux à tout prix.
Mais évidemment que la succession des crises, elle a été dingue entre le Covid, l'Ukraine. Après le Covid, c'est 2020. Macron, il est élu en 2017. Il avait aussi promis une grande réforme de l'État d'une façon générale, qu'il n'a pas du tout essayé. C'est-à-dire que c'est facile, hein, les mecs, ils font toujours les matamores avant d'être élus. Puis après, quand ils sont élus, ah bah c'est compliqué la réalité en fait. Bah oui, c'est compliqué. Et si les mecs, ça n'a pas été fait avant, c'est pas juste que Chirac et tout ça, c'était que des gros nuls. C'est qu'en fait, c'est compliqué de réformer la société et de faire vraiment changer les choses. Et une réforme social-démocrate que Macron aurait dû faire, que j'espérais que Hollande fasse avant lui, c'est le partage du pouvoir dans les entreprises. On sait très bien qu'il y a une grande souffrance au travail en France aujourd'hui. Il y a plein d'études qui montrent que mieux les gens sont associés, mieux ils sont informés des décisions des entreprises, plus l'entreprise est efficace et mieux, mieux le pays fonctionne. Ça, ça coûte 0 euros. Pourquoi il ne l'a pas fait?
Oui, mais si les salariés veulent s'investir, ils vont demander aussi à être mieux payés. Et là, tu vas
non, ça n'a rien à voir. C'est juste la participation, le fait d'être représenté au conseil d'administration.
Comme, comme tu le disais toi-même, tu disais beaucoup de salariés dans les PME se rendent compte que leur PME tient debout avec pas grand-chose et n'osent même pas demander des augmentations de salaire. Est-ce que tu veux nous expliquer ça, en fait? C'est-à-dire qu'à la limite, les salariés ont une vision peut-être plus exacte de la situation de l'économie que d'autres dirigeants. Quoi.
Mais juste pour finir sur le truc précédent, et ça répond aussi à ta question, en Allemagne, dans les grandes entreprises, les salariés sont représentés à égalité avec les directions d'entreprise. Qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne depuis 30 ans? Ça rendait fou déjà Bernard Maris à l'époque quand il était au journal. Ils ont mis en œuvre la modération salariale. Pourquoi? Parce que les patrons, ils n'en ont rien à foutre des emplois. Qui c'est qui est attaché aux emplois? C'est les salariés. Et quand tu mets les chiffres des entreprises vraiment sur la table, qu'est-ce qu'ils font les salariés? Entre les hausses des salaires et la santé de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils choisissent? Ils choisissent la santé de l'entreprise. Ils limitent les hausses de salaire pour garder leur boulot l'année d'après et l'année d'après. C'est ça qui se passe. Et donc en Allemagne, où justement c'est le grand pays d'Europe où les salariés ont le plus de pouvoir de négociation, dans les grandes entreprises seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eux-mêmes décidé de peu s'augmenter, de moins s'augmenter que les Français, pour, et ça a parfaitement réussi, gagner les parts de marché à l'exportation pour développer leur boîte. Donc, il y a tout un fantasme patronal. On a la droite la plus conne du monde, on a la gauche la plus conne du monde, mais on a aussi vraiment le patronat le plus con du monde. Je rappelle que le MEDEF, c'est juste des gugus millionnaires qui connaissent rien à l'entreprise, etc., qui racontent n'importe quoi à la télé. Et encore une fois, cette réforme social-démocrate de partage du pouvoir dans les entreprises, ça coûte 0 euro au budget de l'État, ça fait du bien aux gens, et il n'y a aucun contre-exemple. Les entreprises sont plus efficaces, la tension diminue, et plus les gens sont informés, plus ils sont raisonnables. Parce qu'encore une fois, tu sais très bien que voilà, si tu votes une augmentation de salaire débile, eh ben, la boîte elle coule, c'est fini pour toi.
Oui, mais là, il y a des interlocuteurs que tu n'évoques pas, c'est les syndicats. Les syndicats allemands et les syndicats français, est-ce que c'est la même chose?
Mais là encore, c'est un artefact médiatique. Il n'y a plus de syndicats en France.
Non, il n'y en a plus, d'accord, mais est-ce que aussi la culture historique des syndicats français, c'est pas non plus la même qu'en Allemagne?
Les fonctionnaires. Les fonctionnaires, on n'est même plus sur une baisse de niveau de vie. Il y a un économiste que j'adore qui s'appelle François Gérolf, il sort des chiffres tout le temps partout sur X, là, le réseau social à la télé. Le niveau de vie des fonctionnaires, il a chuté de 25% ces dernières années. Qui a entendu parler de la grande grève des fonctionnaires de cette semaine?
C'est vrai, pas grand monde.
Voilà. Pourquoi?
Bah, tu veux nous le dire?
Parce qu'il n'y a plus de syndicats. On a les emplois les plus protégés du monde. Tous les fonctionnaires titulaires, on peut faire grève tant qu'on veut, peut manifester, on peut rien nous faire. On proteste même plus. Même là, on a des emplois en béton. C'est fini. C'est le cirque médiatique de BFM, etc. On invite Sophie Binet, mais derrière Sophie Binet, il y a qui? Mais il n'y a personne. Le problème, c'est que le taux de syndicalisation, il y a plein d'études, même des mecs du FMI depuis des années, les taux de syndicalisation sont beaucoup trop faibles dans les pays occidentaux. Les syndicats, ils existent à la télé, mais ils n'existent pas dans la réalité. Nulle part. Y compris l'éducation nationale. Toi et moi, on est assez vieux pour se rappeler de la FEN, la Fédération de l'éducation nationale, des grandes grèves des profs, etc. Maintenant, on manifeste le samedi parce que les gens n'ont même plus assez de thunes pour proposer un jour de grève. Ça, c'est un fantasme total. En fait, le salariat partout est beaucoup trop faible. Et c'est mauvais pour les entreprises, c'est mauvais pour la société.
Bon, bah écoutez, c'est sur ces belles paroles.
Il y a juste un truc. Ce que tu disais tout à l'heure, Riz, que Bruno Le Maire, il dit il va falloir s'habituer à qu'il n'y ait plus de gratuité dans les services publics. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de déléguer toujours plus de missions de services publics à des entreprises privées qui, elles, de toute façon, vont effectivement avoir une logique d'entre non pas de service public mais de vente de services. C'est pas une façon déguisée de dire bah à côté on va encore vendre des bijoux de famille ou
Non, mais regarde, ça c'est un peu scandaleux en termes de gratuité, tout le monde l'a dit. C'est-à-dire que quand tu es ministre de l'économie, comme tu l'as dit, Riz, tout le monde sait que c'est pas gratuit, que payes les impôts et que tu payes en plus. Je veux dire, les frais d'inscription à la fac, même s'ils sont faibles, ils existent. Mmh. Quand tu vas chez le médecin, tu y es ta poche. Quand tu vas à la pharmacie, tu y es ta poche, etc. Quand tu vas au musée, tu payes. Enfin, donc cette idée de gratuité, elle est vraiment débile. Et par ailleurs, comme je suis tout à fait d'accord avec toi, Gérard, c'est que là aussi, la grande opposition paresseuse entre l'État et le marché, bon, bah là, quand tu regardes un peu la réalité, il y a une complémentarité énorme entre l'État et les entreprises dans tous les domaines. Donc en fait, l'exemple que je donne toujours à mes étudiants, c'est l'assurance pour la bagnole. Mmh. L'État t'oblige à prendre une assurance, mais il ne te la fournit pas. Donc tu es obligé de consommer un service privé qui est fourni par des assurances privées. Et là aussi, sur les services publics, c'est grotesque sa sortie, puisqu'encore une fois, selon même les chiffres du site Vie Publique, tu as plus de 10% des gens de notre pays qui sont dans un désert médical. Donc ils ne peuvent pas se soigner. Donc qu'est-ce que font les parents? Il y a de plus en plus d'études qui sortent. Moi, je l'ai vécu autour de moi dans mon milieu privilégié depuis maintenant des années. On met les gosses dans le privé. Donc, de toute façon, la solution à la déliquescence des services publics, toujours pareil, il y a des gens qui peuvent s'en sortir. Là, il y a une grosse grève en Seine-Saint-Denis des profs et des parents. Ça n'intéresse personne. Il y a des vidéos qui tournent. Enfin, c'est grotesque. C'est le tiers-monde, avec des toits qui fuitent ou qui s'effondrent, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et il se passe en France ce que j'ai observé directement en Angleterre dans les années 90, ce que j'ai observé directement aux États-Unis au début des années 2000, c'est que les gens ne veulent plus payer parce qu'en face de leurs impôts, tout le monde le dit, les services publics qui s'effondrent. Oui, donc ils achètent de la santé privée, donc ils achètent de l'éducation privée. Et donc, ça répond à la question du début là, de la séance sur les 10 milliards, c'est que c'est impossible d'augmenter les impôts parce que les classes moyennes ne veulent pas payer deux fois. C'est la révolte du contribuable sur laquelle a été élu Reagan au début des années 80, sur laquelle a surfé Thatcher au début des années 80. Et on y a échappé pendant très longtemps en France. On a été une exception mondiale avec les pays scandinaves, avec des impôts très élevés, parce qu'en face, on avait des super services publics. Je vous rappelle, moment de gloire nationale en 2000, l'Organisation mondiale de la santé, elle classe la France premier pays au monde pour le système de santé. Donc à ce moment-là, on paye.
Et on est où maintenant?
Ouais, je sais pas, on doit être sorti du tableau, je sais pas. On doit être 27e, je sais pas quoi. Et voilà, et donc c'est finito, quoi.
Mais on a l'impression aussi que l'économie française, elle fonctionnait bien tant que l'endettement était facile, en fait, tant que les taux étaient faibles. Là, on a l'impression que tout s'effondre depuis, parce que ça devient plus compliqué, en fait, là, de trouver de l'argent.
Non, en fait, ce qui est effectivement, moi, je sais pas, c'est pas mon rôle. Enfin, si, je trouve que mon rôle, c'est de donner la réalité. Je pense que la plupart des gens sous-estiment la gravité de l'effondrement de l'économie française. On n'a plus aucun indicateur qui fonctionne. On a notamment un énorme déficit commercial qui, en fait, par rapport au programme d'Emmanuel Macron de 2017, qui est son premier échec. C'est-à-dire qu'il s'agissait de rendre l'entreprise France compétitive. Elle ne l'est absolument pas. La réindustrialisation n'a absolument pas lieu. Là, toutes les dernières nouvelles de méga-usines, de batteries et tout ça, il n'y en a aucune qui vient en France. Il y a une énorme usine Tesla qui va être construite en Hongrie, parce que la Hongrie, elle est dans l'Union européenne. Donc, elle a accès au marché européen. Sauf que le coût du travail, c'est le tiers. C'est le tiers de chez nous. Donc, on ne peut pas concurrencer ces pays-là. Avant, on compensait avec nos services publics. Les boîtes venaient parce qu'on avait un réseau de transport de dingue. Le TGV, ça a été génial. Ça a fonctionné, tout ça. Ça a existé.
Ça fonctionne un peu, quand même, non?
Un peu. Un peu, mais sauf qu'on a largement été rattrapé par les autres. On avait un système éducatif bien meilleur que les autres avant, et notamment aussi autre exception mondiale qui était publique. L'école normale supérieure, Polytechnique, toutes les grandes écoles en France étaient publiques. Et on avait un système fantastique qui datait de deux siècles, la Révolution, Napoléon, tout ça. Ça s'est bien cassé la gueule, et pendant ce temps-là, les Américains et surtout les Asiatiques, les Chinois, ils se sont largement mis au niveau. Donc aujourd'hui, ils sont plus forts que nous.
Ils n'ont plus besoin de ces grandes écoles françaises. Enfin, ils les créent eux-mêmes, je crois.
Ils les créent eux-mêmes et ils vont... les écoles chinoises, en moyenne, je pense aujourd'hui, sont bien meilleures que les écoles françaises. Et le niveau salarial, il est beaucoup plus faible. Et dernier point, on s'est longtemps targué, à juste titre, d'avoir une productivité parmi les plus élevées au monde. Sauf que notre productivité, maintenant, elle chute aussi. Il n'y a aucun indicateur qui va, vraiment.
Et donc, tu parlais justement de Tesla qui s'installe en Hongrie. Ça nous amène sur le sujet, justement,
des accords de libre-échange.
Voilà. Des accords de libre-échange, voilà. Ouais. Alors, tu nous disais, en fait, que tu nous disais, justement, de l'émission, qu'il y a toujours eu des circulations mondiales, mais même au 19e siècle.
Ouais.
C'est assez étonnant, en fait. On croit que c'est un truc récent, mais il y a toujours eu des circulations incroyables de marchandises de continent à continent. Ouais. Alors, est-ce que c'est si nouveau que ça, en fait, de faire venir de la camelote de l'autre bout du monde, même si aujourd'hui, avec les critères écologiques, ça nous semble aberrant?
Non, non, pas du tout, parce que justement, le fameux David Ricardo, le fameux inventeur, la théorie des avantages comparatifs, donc son bouquin a exactement 2 siècles, hein, il l'a écrit en 1817, et il donne l'exemple déjà, c'est assez rigolo, des céréales, donc Ricardo est anglais, bien sûr, il écrit en Angleterre, et il donne déjà l'exemple des céréales russes. Donc il y a 2 siècles, voilà, on faisait déjà du pain en Angleterre avec des céréales russes qui étaient moins chères, parce que les paysans esclaves serfs russes étaient payés moins cher que les Anglais qui avaient un niveau de vie déjà supérieur et tout. Il donne l'exemple, au 19e siècle, l'Argentine exporte sa viande déjà dans le monde entier. Alors, je ne sais pas trop comment c'est, sur des bateaux réfrigérés, etc. Donc ouais, la mondialisation, il y a un livre comme ça de Suzanne Jean qui s'appelle La première mondialisation, où elle explique qu'au 19e siècle, il y avait déjà une énorme circulation des matières premières, de la bouffe, et qui en fait va ensuite se casser la gueule avec la crise de 1929. Il y a une énorme, là aussi, à l'inverse, contraction du commerce mondial, puis en plus, ouais, le petit bazar de la Seconde Guerre mondiale
alors,
et tout
coup,
ça.
Voilà. Alors du coup, qu'est-ce
c'est pas nouveau.
La mondialisation, on s'en indigne, mais en fait, c'est structurel à toute économie, non ?
Ben oui,
non.
Oui. Mais là, on voit bien, bon, ça, c'est notre fameux Fabrice Nicolino légendaire qui nous le rappelle tous les mercredis, mais on sait qu'il faut qu'on diminue. Et on voit
on
bien.
Diminue quoi, qu'on diminue quoi ?
Qu'on diminue tout.
Les salaires ?
La production, la consommation.
Ah oui, l'énergie, les matières premières, voilà.
Ouais.
Et sauf que bah, juste personne ne veut. Quoi. Personne ne veut. Et là, moi, ça, je trouve ça grotesque qu'on exporte du fromage. Ou de... Par exemple, on sait hein, que les bateaux sont extrêmement polluants. Ils ont des trucs. Il y a des métaux lourds, il y a du méthane.
Mais tout de suite, maintenant, ils vont faire des bateaux propulsés par des moteurs au gaz. Voilà,
ah ouais,
justement, je crois que c'est Saada, le
non, mais surtout, il y a des voiliers. Y a des,
oui, ils vont rajouter des voiles.
Ouais, ils mettent des espèces de voiles qui d'ailleurs, c'est pas forcément des voiles en tissu, ça peut être des panneaux, etc. Ouais. Et ça réduit beaucoup la pollution. J'ai vu un article où un paquebot, c'est grand avenir immense.
Mais ça va pas réduire la circulation des canaux.
Mais non, c'est toujours l'idée. C'est qu'on veut toujours, on veut tous toujours plus de transport. Il y a quand même Franck Riester, je crois que c'était au Sénat, qui a osé. Pour défendre donc le CETA, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, comme tous les Français le savent, le Comprehensive Economic Trade Agreement, c'est-à-dire donc l'accord de commerce général entre la France et le Canada, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, l'Union européenne et le Canada. Et Riester, donc, que personne ne connaît, mais qui est ministre, a quand même osé sortir comme argument au Sénat hier l'amitié franco-canadienne, et il a fait le lien avec les commémorations à venir là, des vétérans canadiens qui nous ont libérés.
Alors, c'est curieux, on découvre c'est vrai qu'on est étonné de voir qu'on a de telles relations avec le Canada. Je savais pas qu'on avait autant de relations avec le Canada.
Après, ce qui est magique aussi.
Il y a vraiment des grands volumes de.
La laïcité, peut-être. Ils nous envoient des humoristes.
Il y a des grands volumes de Kaamelott qui circulent entre le Canada et la France.
C'est
on découvre ça.
Ouais, c'est important pour certains producteurs. Alors là aussi, on a oublié, mais en fait, l'histoire du CETA est assez intéressante parce que. Il y avait un gars qui s'appelle Paul Magnette, qui est le leader socialiste en Belgique, qui s'était beaucoup énervé contre le CETA à l'époque. Je ne sais plus quelle fonction il avait. Il était peut-être Premier ministre, ou bon, c'est compliqué la Belgique. Et il y a eu des très grandes manifestations en Belgique parce qu'il avait bien expliqué justement que cet accord de libre-échange allait bousiller l'agriculture et aussi les services publics. Et donc ce qu'a décidé l'Union européenne dans son très grand souci démocratique, c'est que donc, cet accord est en vigueur depuis 7 ans maintenant, alors qu'il n'a pas été ratifié.
Voilà.
Donc ça, c'est parce que l'Union européenne dispose de ce qu'on appelle la compétence exclusive dans le domaine des négociations commerciales internationales. Donc ni la France, ni aucun des États membres ne signent ces traités qui sont négociés directement entre la Commission et les chefs d'État des autres pays. Et donc ce traité, donc, qui n'a aucune existence légale, voilà. Et donc là, le but, ça qui était drôle, c'est que le Sénat, en fait, devait valider un truc qui existe depuis 7 ans. Et donc je ne sais pas ce qui va se passer concrètement. Enfin, ça va être assez drôle.
Il n'y a pas un peu une hypocrisie par rapport à ces histoires de commerce extérieur, parce que comme tu le disais avant, Macron n'a pas réussi à rendre la France plus compétitive. Mais quand tu veux rendre la France plus compétitive, c'est pour exporter aussi. C'est aussi pour vendre la camote française à l'autre bout. Donc ça, on veut toujours vendre vers les autres et jamais rien faire venir. C'est quand même un peu un truc d'hypocrite, ces histoires de balance commerciale, tu vois.
On
veut inonder le monde avec nos merdes, mais on ne voit pas celle des autres. Mais tout le monde veut faire ça.
Non, mais ce qui me gêne beaucoup, et là, ma chère profession des économies, je trouve, manque de son courage habituel, c'est que les accords de libre-échange, comme tu dis, voilà, il n'y a toujours que le côté, c'est ce qu'a fait Riester, etc. Tu as l'impression qu'il n'y a que des gagnants. C'est-à-dire que tout le monde exporte et tout, alors que non. Et moi, j'ai un économiste favori qui s'appelle Danny Roderick, qui est prof à Harvard et qui explique, qui est peut-être le meilleur connaisseur de la mondialisation, et qui explique un économiste tout à fait standard, social-démocrate, vraiment parfaitement normal, pas du tout socialiste du tout. Et il explique que les accords de libre-échange ne créent pas d'emplois. C'est-à-dire que les accords de libre-échange, conformément d'ailleurs à la théorie de Ricardo, ça va bénéficier à certaines personnes, ça va... c'est comme la concurrence. Mmh. T'as des gens vont gagner plus, t'as des gens qui vont perdre. Mmh. C'est sûr, le commerce se développe. Il peut y avoir éventuellement des gains de niveau de vie, mais ce n'est pas sûr. Et surtout, et ça pour moi, ça c'est une de mes nombreuses très grandes inquiétudes actuelles, c'est que l'erreur démocratique qui est faite par les gouvernements, c'est que les perdants, ils crèvent et on ne fait rien pour eux. Et donc, il y a tout ce discours sur le libre-échange, c'est génial et tout. Déjà, d'un point de vue écologique, c'est une aberration évidente. Alors, si on n'est pas capable de le voir, bon, bah,
quand tu dis les perdants, c'est qui les perdants? Et ils crèvent comment? Physiquement, quoi, ils crèvent.
Et bah,
c'est quoi les perdants? C'est des populations qui sont dans la misère, qui...
Et bah, par exemple, il y a ce truc, puisqu'il y avait aussi... le mythique Pascal Canfin, que j'aime beaucoup, là, qui est le chef des Français au Parlement européen dans le groupe Renaissance, qui était tout content d'avoir, on l'a oublié ça aussi déjà, en septembre dernier, qui a ratifié un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, c'est quand même magique, pour importer quand même des produits laitiers de Nouvelle-Zélande. Donc là, je veux dire, le bilan écologique est quand même génial.
Parce qu'on ne fait pas de lait en Europe, quoi.
Bah, c'est ça, le lait néo-zélandais a ce petit goût de kiwi tout à fait inimitable.
C'est déjà trop cher en Europe, le lait.
Ouais, bah, c'est ça. Et donc, par exemple, effectivement, il y a une productivité de dingue. Donc, comme tout le monde sait, la Nouvelle-Zélande, c'est le pays du mouton. Mmh. Voilà. Et donc, effectivement, bah, pour répondre à ta question, si toi, tu fais du mouton en France, si demain, quand l'accord de libre-échange sera signé avec la Nouvelle-Zélande, où ils ont des techniques de dingue, il y a beaucoup plus de moutons que d'habitants en Nouvelle-Zélande, et ben, même avec les frais de transport qui sont dérisoires parce qu'on ne paye pas le vrai coût du transport pour toutes les raisons qu'on connaît, et ben, demain, dans ton supermarché d'ici, et ben, c'est le but de l'accord. Mmh. Le mouton néo-zélandais sera moins cher que le mouton français. Donc... Et donc, tu vas avoir l'agriculteur français qui va nous faire chier avec son tracteur, qui va toucher des aides et tout. Et donc, si tu fais le bilan des accords de libre-échange, qui c'est qui gagne? C'est les mecs du transport, c'est les mecs qui gagnent à l'exportation, un peu le consommateur, c'est vrai, parce que les prix baissent. Et d'ailleurs, c'est le problème pour ensuite remettre en cause le libre-échange, c'est que on achète tout pas cher à l'étranger. Donc si tu fermes les frontières, le niveau de vie des gens s'effondre. Et t'as l'État derrière qui racle un peu pour compenser ceux qui gueulent fort, comme les agriculteurs en France.
Ouais, c'est ça.
Mais
donc nous, tu déconseilles à nos auditeurs de se mettre au lait là en France, de d'investir dans une bergerie.
On va se mettre au pinard parce qu'on n'arrive plus à vendre notre pinard en France, on est obligé d'exporter.
Oui, c'est ça, il y avait des dessins comme ça dans Charlie, c'est ça, soulez-vous.
Il faut remplacer le lait par le pinard.
Soulez-vous français.
On va conclure, mais quand on t'écoute, on se demande dans quoi il faut s'investir. Alors, on demande tes conseils de sachant, c'est quoi le domaine de l'économie où il faudrait s'investir aujourd'hui?
Bah, je vais dire les trucs que tout le monde dit, c'est que démerdez-vous pour avoir un morceau de terre fertile pour avoir à bouffer dans les années qui viennent.
Mais c'est en fait, là, t'es en train de saborder ta discipline toi-même. Parce que l'économie, c'est quoi? C'est des flux. C'est des flux.
Non, mais attends, il dit peut-être pas ça pour se nourrir, c'est peut-être pour vendre aux autres.
Donc,
pour acheter encore plus de terre fertile.
Pour sauver la planète, pour aller vite, la première chose à faire, c'est effectivement déjà de diminuer les flux, voire à terme de les supprimer le plus possible. Tu supprimes le principe même de l'économie, des échanges, du commerce.
Mais tu as entièrement raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la théorie de Ricardo, qui est très rigolote d'ailleurs, c'est la plus grande en fait théorie économique de toutes, parce que justement, il dit ça, il nous dit, il faut voir la magie du truc. C'est pour ça que ça a emporté tous les esprits encore aujourd'hui, parce que Ricardo, il prend un exemple à deux pays et il te montre, il y a un pays qui est plus efficace que l'autre dans tout. Il te montre que les deux arrivent à échanger, alors que c'est bizarre parce que le pays qui est moins efficace, ses coûts de production sont plus élevés. Donc normalement, il ne peut rien vendre au pays le plus efficace. Il te montre que les deux ont intérêt à échanger et que les gens des deux pays, en travaillant le même nombre d'heures qu'avant, le simple fait de l'échange, ils vont avoir accès à plus de consommation. Et donc en fait, c'est ça. La théorie Ricardo, c'est ça. C'est que le commerce international, juste le simple fait d'échanger, c'est la corne d'abondance. C'est-à-dire que juste en vendant des trucs... Tu travailles moins, tu consommes plus, tu as plus de loisirs, tu as plus de niveau de vie. Et donc ça, cette théorie qui est fausse, en fait, il y a un petit bims dans la théorie Ricardo, mais je ne peux pas vous le faire là, évidemment, dans le podcast. Cette théorie qui a deux siècles, c'est la plus folle des théories économiques, parce qu'il nous dit, plus il y a du commerce, plus chacun va se spécialiser, on va faire un seul truc, on va tous devenir plus productifs, c'est ça l'argument, et donc le niveau de vie sur la planète par le simple commerce, c'est-à-dire que sans ce que nous apportent normalement les révolutions technologiques ou le fait de bosser plus dur, le simple fait d'échanger, ça rend le monde meilleur. Il a des phrases magnifiques, il nous dit « toutes les nations seront comme, se tiendront la main, comme un pays civilisé ».
Et tu n'y crois pas ça, ça toi
Non, non, on voit bien que si, que le commerce a extraordinairement enrichi les gens depuis deux siècles. Bah oui, évidemment.
Même toi, tu l'admets.
Oui, je l'admets. Après, il y a des perdants. Tu prends l'exemple typique, qui est quand même archi basique, mais qu'on oublie trop, le nord de la France. Le nord de la France au 19e siècle est la partie la plus riche du pays, puisque c'est là qu'il y a l'industrialisation, puisque c'est là qu'il y a les premières. Bon, ça, je pense que Rissi connaît mieux que moi tous les trucs, mais c'est là qu'il y a les mines de charbon, qu'il y a les débuts de la métallurgie, qu'on fait les locomotives et tout. Et ensuite, ils ont été concurrencés déjà, notamment par les pays asiatiques, hein, sur le textile. Ça s'est effondré. Et ensuite, on a une terre de misère avec des indicateurs socio-économiques complètement dingues, un développement de maladies, enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Et ces gens-là sont désespérés, ils vivent très mal, et on sait que c'est une des terres d'élection du Rassemblement National. Et on sait que... c'est ça qui quand même me terrifie totalement. Le premier argument de l'élection de Donald Trump, c'est de dire « Vous avez perdu vos emplois à cause des Chinois, élisez-moi, je vais vous protéger. » Le Brexit, c'est le refus de la mondialisation. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de travaux en économie, en sciences politiques, où c'est très, très facile de comprendre que la mondialisation fait des perdants, que ces gens-là, les dirigeants, n'en ont rien à foutre, et que les perdants, malheureusement, on vit encore un tout petit peu en démocratie, donc il y a un moment dans la vie où tout le monde a égalité, c'est le moment du vote, et ces gens-là, on leur a bien craché à la gueule, et après ils te crachent aussi à la gueule en retour, et c'est quand même assez facile à comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font.
Donc, là t'es en train de remettre en cause la démocratie qui finalement, au bout du compte, tu donnes la parole à des mécontents, bon là je fais un peu l'avocat du diable, et du coup ça crée des situations politiques infernales.
Justement, moi mon cher Daniel Roderick, il a écrit un bouquin il y a 2011, donc maintenant ça fait plus de 10 ans. Encore une fois, le mec il est prof à Harvard, je sais pas comment dire, il est totalement respecté dans la profession des économistes, il fait plein de travaux empiriques, statistiques, enfin c'est vraiment un chercheur, tout ce qu'il y a de plus, comme on peut l'imaginer, honnête et tout, et... le titre de son bouquin, malheureusement pas traduit en français, c'est « Le paradoxe de la mondialisation », et le sous-titre c'est « Pourquoi la mondialisation libérale et la démocratie ne peuvent pas coexister ».
D'accord.
Voilà. Donc il te dit c'est l'un ou l'autre.
Eh bien c'est sur cette note optimiste que nous allons nous quitter. Voilà.
C'est ça. Et une bonne journée à tout le monde.
Voilà, je pense que la semaine prochaine on trouvera des solutions, on fera des propositions.
Et en attendant, faites des économies.
Voilà. Serrez-vous la ceinture.
Et stockez les patates.
Voilà. Oui, les patates, c'est important.